Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
C'est alors qu'il faut marcher. Marcher tout seul. Il faut marcher. Marcher tout seul. C'est alors qu'il faut marcher. Marcher tout seul. Marcher. Marcher tout seul. Marcher tout seul.
Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Claude Saint-Jard. Bienvenue à cette émission de À nous le futur. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. J'ai le bonheur d'être avec M. Bernard Saunier, qui est co-auteur d'un livre qui s'appelle L'éolien au cœur de la révolution énergétique. Et puis aussi, avec trois personnes, il est co-auteur d'un article qui s'appelle À qui profiterait la fin du monopole d'Hydro-Québec? Ces auteurs-là sont membres du collectif scientifique sur les enjeux énergétiques du Québec. Alors, l'article duquel je m'inspire, duquel je parle, c'est le 24 avril cette année, là, dans Le Devoir. OK? Alors, M. Saunier, vous êtes là? M'entendez-vous, M. Saunier? Oui, OK. Là, je vous entends.
Je vous entends très bien.
Bon, tant mieux, il y avait un problème. Ça a été réglé. Alors, tout le monde, je répète que M. Saunier est auteur du livre, oui, sur l'éolien, et à qui profiterait la fin du monopole d'Hydro-Québec dans Le Devoir ce 24 avril. Et vous êtes co-auteur avec trois personnes, Simon-Philippe Breton et Étienne Boudreau, qui sont membres du collectif scientifique sur les enjeux énergétiques du Québec. Fait que,
c'est bien ça.
Bon. Fait que là, j'ai votre CV ici. Vous êtes diplômé de l'École polytechnique de Montréal en génie physique en 1973. Et vous possédez une expérience de 40 années en matière d'intégration et d'exploitation technico-économique des apports énergétiques des sources renouvelables dans les réseaux électriques. J'en passe un petit peu, là. Vous avez acquis une expertise reconnue de l'intégration des systèmes hybrides de production dans un cadre de conception, de planification et d'exploitation des réseaux électriques. Puis vous avez contribué activement au déploiement du potentiel technico-économique des sources renouvelables dans le réseau électrique, en privilégiant leur intégration harmonieuse à travers toutes les possibilités technologiques de la gestion active des mouvements d'énergie applicables aux architectures de réseaux électriques centralisés et ou décentralisés. Et puis, de mars 2006 à ce jour, vous exercez encore votre profession d'ingénieur à titre de conseiller et d'analyste indépendant dans des expertises technologiques et scientifiques liées aux technologies d'énergie renouvelable. Puis, dans les publications, mais comme je disais, vous êtes co-auteur de l'ouvrage de référence « L'éolien au cœur de l'incontournable révolution énergétique » avec M. Reed, que j'ai rencontré à Boucherville déjà. Et puis, vous êtes membre fondateur de la Société d'énergie solaire du Canada, président de l'Association canadienne d'énergie éolienne 1994-1995, membre de la table de consultation du débat public sur l'énergie du Québec en 1995-1996, récipiendaire en 1998 du prix RJ Temps plein de l'ACEE pour contribution remarquable à l'avancement de la technologie éolienne du Canada. Puis récipiendaire en 2004 du Wind Diesel Pioneering Award du programme Wind Powering America du DOE des États-Unis, ouais, soulignant le leadership dans le développement des technologies de jumelage éolien diesel. Puis, oui?
Vous allez m'intimider, là. Bon, OK. Il faut passer à l'entrevue, s'il vous plaît.
D'accord. OK. Fait que, bon, comme première question... Bien, c'est ça. Avant la première question, j'ai quelque chose à dire, justement, pour vous intimider encore un petit peu. À l'endo, au coin gauche, en haut, vous dites, un peu comme résumé du livre, là, que le gisement éolien disponible au Québec représente 100 fois la production totale d'électricité actuelle du Québec en 2008. Et c'est le plus important gisement de toute l'Amérique et le deuxième plus important au monde. Son abondance et sa qualité sont exceptionnelles. C'est également le plus riche et de loin de tous les potentiels énergétiques du Québec. Puis c'est au Moyen-Nord, hein, qu'on spécifie que c'est la plus grande ressource, là. Et puis... comme je vous ai dit hier, à la page 366, vous écrivez que nous formulons le vœu que ce travail serve d'assise à la mise en œuvre d'une stratégie structurante d'appropriation par le Québec de son fabuleux gisement éolien et que cette stratégie soit assortie d'un plan de déploiement économique de cette filière qui soit créateur de richesses collectives durables pour le Québec et les Québécois d'aujourd'hui. Bon, alors, c'était un vœu, m'avez-vous dit, parce qu'on dirait aujourd'hui que ça se réalise moins, là, vu l'appropriation par le gouvernement qui n'écoute pas les gens de l'éolien, qui est un bien commun. Alors, comment vous vous sentez émotionnellement par rapport à ça, pour débuter, avant qu'on passe à la raison, là?
Bien, écoutez, je n'ai pas changé de position sur la valeur de l'éolien pour le Québec. Je crois que c'est vraiment, c'est ce qu'on écrivait aussi dans la conclusion, c'est réellement un passage obligé sur le chemin de développement soutenable pour nos petits-enfants au Québec. L'éolien fait couler énormément d'encre depuis quelque temps. Il n'y a pas beaucoup de semaines où on n'a pas un article sur l'éolien. Et, en fait, c'est tout à fait normal, je dirais, surtout après 20 années d'appels d'offres éoliens que je qualifierais maintenant d'intermittents, si on peut dire, parce qu'on ne sait jamais quand ils vont arriver, ni avec quelle importance, ni où ils vont s'installer.
Oui.
Et donc, je crois que c'est important de rappeler donc la raison de notre intérêt pour l'éolien, parce que ça partait de ce gisement phénoménal auquel on peut accéder sans avoir à forer le sous-sol pour rechercher trop en profondeur, par exemple, comme c'est le cas pour les gisements fossiles. Et que l'éolien a des caractéristiques fort intéressantes. D'ailleurs, le livre dont vous avez parlé, que M. Reed et moi avons coécrit en 2009, porte aussi, en quelque sorte, une espèce de mode de caractérisation des filières. Pour l'éolien, en fait, si on le compare à la demande électrique du Québec, ben, il est parfaitement en phase avec les besoins énergétiques, parce qu'ici, on a beaucoup de chauffage électrique en pointe et fréquemment, pas fréquemment, mais physiquement, à chaque fois qu'ils ventent, les besoins en énergie pour chauffer nos maisons augmentent. Or, l'éolien constitue justement un moyen parfaitement coordonné pour minimiser localement les besoins de puissance électrique qui vient de loin si on dispose d'éoliennes locales. Enfin,
D'accord.
L'intérêt de l'éolien dans les régions, dans toutes les régions du Québec, si on veut. Alors, et aussi le fait que chaque kilowattheure produit par l'éolien, étant donné qu'on est dans un univers qui s'appelle le marché de l'électricité, en fait un marché tout à fait unique par le fait que tout ce qui est produit est consommé au même moment. L'éolien est assez intéressant puisque automatiquement, de manière passive, sans aucune intervention d'Hydro-Québec, chaque kilowattheure produit par l'éolien, ça signifie qu'il y a un volume d'eau correspondant qui reste dans les réservoirs. Donc, il y a une alliance tout à fait naturelle entre l'éolien et la demande, et aussi entre l'éolien et les réserves hydrauliques qui sont dans les réservoirs d'Hydro-Québec.
Mm-hmm.
Alors ça, c'est quand même, ça fait de l'éolien le meilleur allié objectif à titre de filière d'énergie renouvelable de l'hydraulique au Québec.
Mm-hmm.
Okay. En plus, bon, on parle beaucoup évidemment de questions d'occupation au sol de l'éolien, mais il faut quand même comparer toute cette caractérisation des filières doit tenir compte de l'occupation au sol des filières. La filière hydraulique n'est pas la plus économe en termes de superficie occupée au sol, de changement d'usage, en fait, de territoire dans ce cas-là, complètement. L'éolien n'occupe à peu près qu'un pour cent du territoire où il est installé. Les éoliennes commerciales actuelles qui sont rendus à 6 MW. C'est des grandes éoliennes, mais on ne verra pas une autre éolienne à moins d'une distance d'au moins 1 km de celle qui est installée n'importe où. Donc, il faut aussi relativiser. Mm-hmm. On peut penser que d'autres filières, comme le nucléaire, n'occupent pas beaucoup d'espace au sol. Par contre, il y a d'autres éléments de caractérisation qui font qu'il ne faudrait pas non plus le considérer comme une panacée.
Oui, d'accord.
Alors, donc, il reste que l'accueil de l'éolien, puisqu'il faut, il faut bien en parler au début de cette entrevue, mais ce n'est pas la seule filière, bien sûr. On en parlera d'autres. On en parle souvent comme étant une énergie intermittente, ce qui n'est pas vraiment une caractérisation correcte qui ne peut pas être faite, parce que les prévisions météorologiques permettent de voir venir le vent à 24-36 heures d'avance, et on sait quand est-ce qu'il va s'atténuer. Donc, il est assez facile à gérer, tout à fait. Donc, d'accord. Voilà, c'est ce qui me fait dire que... alors qu'on a donc les deux filières de production d'électricité qui sont les meilleurs alliés naturels qu'on puisse imaginer, la question qui doit être posée, c'est la suivante. Qu'est-ce qu'Hydro-Québec ne pourrait pas faire pour le déploiement structuré d'éolien quand on sait ce qu'elle a su faire pour l'hydraulique depuis 8 décennies?
Oui. OK, c'est bon. Alors, j'écoute.
Oui.
Bien, pour cette question, bien, d'abord, je rappelle aux gens que vous avez écrit l'article avec deux co-auteurs à qui profiterait oui. La fin du monopole d'Hydro-Québec le 24 avril. Puis ça commence devant le projet du gouvernement Legault d'ouvrir la production et la distribution d'électricité au secteur privé. Tout le Québec, dites-vous, est appelé à réfléchir de nouveau aux raisons qui l'avaient amené à prendre le contrôle du déploiement de son énergie électrique. Et un peu plus loin, vous dites que l'état de frénésie du gouvernement Legault nécessite un débat de société pour se doter d'une politique énergétique crédible, efficace et équitable. Fait que je voulais répéter ça aux gens là, pour leur dire que c'est vraiment ça que vous voulez, mais des fois j'ai des questions un peu à côté. Fait que c'est pas grave. Fait que finalement, hier, vous m'avez séduit en me disant que vous souhaitez qu'Hydro-Québec fasse pour l'éolien ce qu'il a fait pour l'hydraulique. Et je trouvais ça très beau, ça m'enchantait, ça attisait ma curiosité. Mais pourtant, avec la privation de l'éolien, on dirait que ce gouvernement n'a pas compris et on ne va pas dans la bonne direction. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter à ce que vous me disiez tout tantôt par rapport à ça?
Oui, bien, écoutez, vous faites référence certainement aux séries d'appels d'offres qu'on a au Québec depuis 20 ans, et tout particulièrement sur la filière éolienne. Il y en a eu d'autres sur le petit hydraulique, sur la biomasse, sur diverses filières. Il y en aura bientôt une autre sur la filière du photovoltaïque. Mais la grande question qu'il faut se poser aussi, c'est que il y a une privatisation, donc, à travers les appels d'offres. Ce sont des entreprises qui sont propriétaires de parcs éoliens, parfois en partenariat. Et il y a même des contrats qui existent entre Hydro-Québec Production et Hydro-Québec Distribution, à ce titre d'ailleurs, qui sont issus d'appels d'offres d'énergie renouvelable récents. Mais la question qui se pose, encore une fois, c'est pourquoi Hydro-Québec ne cherche pas à sortir d'une espèce de mode d'appel d'offres surtout devant les nouveaux besoins de décarbonation qui établissent les nouveaux besoins énergétiques à des valeurs de 50-60 TWh de plus, de 8 à 9 000 MW de nouvelles capacités de production. Ça, c'est simplement le plan d'action 2035. Là. Et donc, il y a des besoins énormes qui signifient qu'il faudra une coordination très, très rigoureuse sur qui peut se raccorder au réseau de transport d'Hydro-Québec, qui pourra faire le commerce d'électricité. On est dans ces discussions-là actuellement avec des projets comme ceux de TRS Canada à Shawinigan, qui vient installer 800 MW d'éolien, 100 MW de PV, et qui bénéficierait d'un raccordement de 150 MW de capacité provenant d'Hydro-Québec. Il est clair que les projets de cette envergure-là, dont l'objectif est en fait d'exporter de l'hydrogène, soit sous forme de, d'ammoniac ou d'hydrogène liquéfié, je ne sais trop. Mm-hmm. C'est des projets dont, quand on y réfléchit, il y a 800 MW d'éolien sur le territoire. Ça veut dire quand même quelque chose comme, on va dire, en arrondissant 150 éoliennes distancées. Ça représente sur un territoire au moins 150 km² de territoire exploité par l'éolienne, dont seulement 1% du territoire sera occupé, mais ça a mobilisé des surfaces de territoire relativement importantes dans la région de Shawinigan. Ça veut aussi dire qu'une fois qu'il y en aura d'installer là, ben, ce sera plus possible pour Hydro-Québec d'en installer de nouvelles. Mm-hmm. Donc, il y a la question de la propriété du vent et du sol qui devient primordiale. C'était déjà à l'époque, en 1995, à l'époque du débat public sur l'énergie, une des recommandations unanimes de la table de consultation, hein, il y avait 14 personnes qui représentaient les différentes filières énergétiques, et tous avaient reconnu qu'il fallait faire du vent une ressource publique et la reconnaître comme telle. Le gouvernement avait dit que c'était prématuré, mais on est probablement rendu à poser cette question-là aujourd'hui.
Oui, nous posons la question, mais on dirait que le gouvernement a répondu. je sais que, en ayant lu l'article de M. Montpetit, qui est dans le RVHQ, le Réseau Vigilance des Hydrocarbures Québec, qu'il a voulu assister à une réunion par une industrie privée d'éolien sur une terre agricole, puis c'est interdit, il fallait qu'il sorte. Puis aucun journaliste ne pouvait y aller aussi, sinon la réunion était annulée. Et puis c'était chez un agriculteur, de sorte que les... Je ne sais pas si Patrice Roy appelle ça des mâts, je ne sais pas si c'est correct, les mâts, en tout cas. L'éolien...
Les mâts d'éoliennes, oui.
Oui, OK. L'éolienne...
Les tours.
D'accord. Mm-hmm. Les tours, ça accapare des terres agricoles et ça menace notre souveraineté alimentaire. Est-ce que j'exagère?
Je ne sais pas si vous exagérez, mais je ne suis pas tout à fait de cet avis parce que... Encore une fois, le territoire agricole ou n'importe quel territoire où on juge que l'exploitation de la ressource éolienne serait possible occupe environ 1% une fois les systèmes en opération, 1 à 2% peut-être maximum dans les endroits plus difficiles, du territoire réel. Oui. Donc 99% du territoire... si on considère les terres agricoles, continue d'être réservé à l'usage premier qui était le sien. C'est donc, ça se traduit fréquemment donc par des contrats qui existent entre un propriétaire agricole et une société de développement éolien qui se caractérise par un montant annuel payé pour l'utilisation de cet espace-là, puis un espace qui représente en fait probablement plusieurs fois, je ne pourrais pas dire exactement le nombre, mais certains pourraient le juger, mais c'est certainement plusieurs fois en tout cas le montant qui peut être gagné en exploitant cette terre-là pour des fins agricoles qui était sa fonction première.
D'accord.
Alors donc là, toute la question de la répartition de ce que beaucoup appellent la nuisance éolienne locale, qui bénéficie à un seul producteur plutôt que d'avoir des retombées qui sont celles que souhaiterait avoir la majorité des résidents d'une communauté. Je pense à cet égard, il me vient en tête le projet de la MRC Pierre de Sorel, qui a remporté un appel d'offres communautaire qu'Hydro-Québec avait lancé il y a plusieurs années. C'était des projets inférieurs à 25 MW. Alors, eux, ils ont réussi à financer, à titre de MRC, le développement de ce parc éolien dont ils tirent des revenus annuels à titre de MRC. Donc, ils sont répartis dans des projets jugés utiles par la planification de la MRC. Alors, il y a diverses possibilités d'intégrer l'éolien d'une façon qui soit plus harmonieuse, on va dire comme ça, oui. Avec les, mettons, ce que les gens qu'une localité souhaite. Évidemment, si les gens ne veulent pas avoir d'éolien, c'est leur droit. Maintenant, si on a besoin pour se décarboner de 60 TWh de nouvelle électricité, c'est clair qu'on ne pourra pas le faire en développant des barrages hydroélectriques parce qu'il n'en reste même plus suffisamment pour générer une telle production d'énergie. Et certainement pas à un prix qui serait raisonnable, ni à des distances qui seraient moins grandes que celles qu'on a actuellement.
D'accord.
Donc, il faut réfléchir au problème dans son ensemble. S'il y a la nécessité de décarboner le secteur énergétique du Québec, n'importe où, comme n'importe où ailleurs, eh bien, on est équipé d'une ressource énergétique que nous envient toutes les juridictions du monde. Mm-hmm. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le développer? C'est de ça qu'il faut discuter.
Okay.
Pour les discuter, l'accueillir de façon harmonieuse, il y a différentes façons de le faire. Il arrive qu'Hydro-Québec, qui passe de nouvelles lignes sur un territoire, doit laisser sur son passage des compensations financières pour l'usage du sol, la nuisance visuelle, des retombées qui sont conformes aussi aux attentes des gens de la communauté ou par ces lignes-là, conformément à leur plan de municipalité ou de MRC. Bon, c'est des choses qui arrivent.
D'accord.
S'agissant d'électricité donc, et de besoins d'électricité majeure, renouvelable, électricité renouvelable à développer pour arriver à décarboner notre économie, je pense que la question n'est peut-être pas résolue, mais il est clair que ce n'est pas en bloquant toute possibilité de développement éolien au Québec, où j'exagère sans doute beaucoup, là. Ce n'est pas en faisant ça qu'on va s'aider beaucoup, parce que les solutions de substitution seront peut-être celles que le nouveau PDG d'Hydro-Québec a mentionné le premier jour de son arrivée en poste.
Ouais.
C'est peut-être pas le nucléaire, quoi. Le nucléaire modulaire même dont on parle, qui pourrait s'installer à proximité des villes, mais alors qu'il n'existe pas de prototype dûment qualifié pour un service fiable à long terme dans cette technologie. Alors voilà, il faut voir les avantages et les inconvénients de toutes les filières correctement, leur prix, leur contrainte de raccordement, leur valeur en tant que leur valeur synergique avec les actifs de production actuels.
Mm-hmm.
Et c'est comme ça qu'on peut déterminer le mix énergétique dont on aura besoin. Non, on n'a pas parlé d'efficacité énergétique, mais on pourra y revenir. Mais il est clair que l'éolien est le vent est une source d'énergie formidablement taillée pour répondre aux besoins énergétiques du Québec, ça c'est certain.
Mais tant mieux. Et Richard Langelier, le juriste, a créé, inventé un règlement pour les municipalités ou les MRC qui aimeraient se doter de mâts éoliens, de tours éoliennes en tout cas. Et puis, donc le titre de votre article, c'est « À qui profiterait de la fin du monopole d'Hydro-Québec ». Puis normalement, tu sais, dans la vie normale de plusieurs décennies, là, le mot « monopole » fait peur. Mais par contre, vous défendez positivement le monopole d'Hydro-Québec, car sans elle, on n'arrivera pas à bien décarboner dans les limites qu'imposent les changements climatiques, et dans le temps et dans la quantité du ES, n'est-ce pas?
Oui, on affirme ça. C'est vrai que c'est très... ça peut paraître même suspect aujourd'hui qu'on en vienne à défendre des monopoles, mais... s'agissant d'électricité, comme j'évoquais tantôt, l'électricité est un marché tout à fait unique. Il n'y a aucun marché de produits ou de biens commercial ou de bourse de valeur de divers produits, ressources, qui a cette exigence de synchronicité, hein, parce que tout ce qui est produit sur le système électrique est consommé au même moment, soit sur place, soit à distance, soit exporté. Mais il fait partie d'une balance qui recouvre le territoire du continent, en fait, parce que les raccordements avec les réseaux voisins sont là. Mais cette exigence de synchronicité fait de l'électricité un marché absolument unique. Et c'est probablement la raison qui fait en sorte que l'idée d'un monopole pour gérer la planification de l'évolution du réseau électrique fait un sens vraiment assez évident. En fait, on est probablement la seule juridiction en Amérique du Nord qui a cette caractéristique d'avoir un monopole qui produit, transporte et distribue de l'électricité.
D'accord.
Il semble que personne ne s'en plaint, puisque il y a même eu des contrats d'approvisionnement de long terme qui ont été signés entre Hydro-Québec et l'État de New York et l'État de Boston, mm-hmm. Et qui vont faire en sorte qu'on va réserver ici au Québec ce que j'estime être environ 4000 mégawatts de capacité de production hydroélectrique pour répondre à des besoins pour le raccordement jusqu'à New York, le transport jusqu'à New York d'électricité, d'hydroélectricité du Québec sur de longues distances et sur 20 et 25 ans sous forme d'exportation de capacité ferme. Donc, on va produire pour qu'arrive à New York 1250 mégawatts de puissance hydroélectrique provenant du Québec et qui devront être rendus disponibles 8760 heures par année.
Oui.
Sauf peut-être quelques exceptions horaires, là, dans les périodes de grande pointe peut-être du Québec, mais ce n'est pas ce que je qualifierais d'un lien bidirectionnel. C'est vraiment une autoroute à sens unique pour transporter des volumes d'énergie qui totaliseront là, pour Boston et New York quelques, comment on dit, 20 ou 22 TWh, puis avec les pertes, sans doute un peu plus que ça.
D'accord.
Il s'avère que ces 26 TWh, 22 ou 25 TWh, c'est à peu près l'ampleur du déficit de besoins énergétiques que le Québec a actuellement à rencontrer d'ici 2035.
Oui, c'est ça, on est passé.
Donc, en même temps qu'on a signé des contrats comme ceux-là, qui, la marque, ont été développés sur plusieurs années, hein, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais les contrats de livraison à New York et Boston doivent commencer à entrer en service en décembre 2025, donc à la fin de l'an prochain. Et ce sont donc des volumes d'énergie et de capacité de production qui ne seront pas disponibles dans le bilan des besoins en puissance et en énergie pour le marché intérieur du Québec.
Ouais, ouais. Ça me fait peur un petit peu, ça.
Et ça ne tient pas compte, évidemment, des autres projets qui vont probablement venir en termes de besoins énergétiques. Hein. Il y a les ajouts qui proviennent des décisions du ministre de M. Fitzgibbon, donc, qui a décidé quand même de plusieurs nouveaux projets qui devront être approvisionnés et qui n'étaient pas présents dans les besoins en puissance il y a à peine deux ans dans
ouais.
le plan.
C'est ça. Je pense que c'est des décisions... des décisions un peu trop vite, puis pas assez écoutées du peuple, là, je pense. En tout cas, fait que l'Hydro-Québec... Pardon?
Oui. Oui, c'est bon.
Ben, l'Hydro-Québec, c'est donc un héritage à conserver, selon vous? Un beau legs à conserver?
Un héritage à conserver? Absolument. 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 Et plus que jamais, je dirais.
Oui.
Qu'est-ce qu'on ferait si on devait retourner... Je sais pas, c'est comme si on retournait 100 ans en arrière. Si on laisse les développements énergétiques du secteur électricité se faire sans coordination avec Hydro-Québec, qui doit être au centre de la feuille de route de tout ce qui concerne l'électricité au Québec,
oui.
Je ne sais pas comment on considérait tout ça. Il y a bien sûr la régie de l'énergie, mais la régie d'énergie n'a pas jusqu'ici de contrôle sur... n'a pas le pouvoir d'examiner quoi que ce soit qui concerne le projet de production. Ça, c'est donc peut-être un pouvoir qui devrait lui être alloué aussi pour permettre de s'assurer collectivement, oui, que tout...
Mais cet héritage-là devrait être enrichi, j'en suis convaincu, de beaucoup plus de participation citoyenne pour accoucher d'une belle politique énergétique qui nous plaise. Un débat public sur l'énergie, là, on ne sent pas que dans l'héritage de l'Hydro-Québec, il y en a beaucoup. Est-ce qu'on est encore maître chez nous assez de ce point de vue-là? Alors, bonjour, mon nom est Claude Saint-Jean, vous écoutez À nous le futur. Nous étions en conversation avec Bernard Saunier, qui est co-auteur avec Réal Ré du livre « L'éolien au cœur de l'incontournable révolution énergétique ». Et nous parlions de son article avec deux autres auteurs de « À qui profiterait la fin du monopole d'Hydro-Québec ». Ils sont membres du collectif scientifique sur l'énergie. Et puis, mais la conversation a été coupée. C'est malheureux, je n'ai pas de technicien pour essayer de rétablir tout ça. Fait que je suis quand même content de ce qui s'est passé. On a eu droit, je pense, à 25 minutes au moins de dialogue avec M. Saunier. Et puis, il restait deux questions. Une question, disons, sur les autres chemins pour atteindre la décarbonation, dont, par exemple, l'efficacité énergétique ou la sobriété énergétique. Ça, c'est un point auquel il tenait beaucoup, c'est-à-dire réduire à la source la consommation, ce qui demande un changement de mode de vie de la population, puis peut-être un peu de changement de manière d'être. Ça, c'est moi qui dis ça, là. Parce qu'on embarque sur la philosophie et l'éthique, peut-être. Et puis finalement, l'autre question, c'est pourquoi un gouvernement élu majoritairement qui ne nous écoute pas fait-il des comportements, disons, anti-écologiques? Fait que c'est peut-être une question de réforme démocratique. Ça, c'est pas lui qui dit ça, c'est moi, là. Parce que nous avons besoin d'une proportionnelle régionale comme mode de scrutin. Alors, on a des changements à faire dans ce sens-là. Mais je sais que M. Saunier pensait à l'importance de la proportionnalité aussi dans la question du mode de scrutin. Alors, je continue. Merci encore, M. Saunier, et bonne santé. À la prochaine, peut-être. Donc, normalement, je commence par la chronique hors écologique. Là, je la fais présentement. Mais ce n'est pas une chronique musicale ou avec un art spécial, mais c'est une sorte de conversation avec Alejandra Ramos-Galvez. Elle parle du rôle de l'art dans la facilitation de la transformation urbaine durable. On lui pose la question, en ce qui concerne vos recherches, quel est le rôle de l'art dans le soutien aux communautés pour créer des villes plus durables et vivables pour tous? L'art, dit-elle, est la manifestation d'un besoin de communication et d'une façon de s'exprimer. Il peut donc révéler beaucoup de choses concernant la perception que les gens ont de certains concepts. Par exemple, pour le TUC, T-U-C, je ne sais pas encore ce que c'est, nous avons organisé un concours de photos sur le thème « Co-créer les villes que nous méritons » et demander aux gens de présenter des activités qui contribuent à zéro carbone et à des villes plus inclusives et durables. Les villes, dit-elle, contribuent à 75 % des émissions mondiales de CO2, ce qui souligne l'urgente nécessité d'un développement urbain durable. Donc, elle dit aussi que dans nos recherches, nous voulons découvrir les différentes formes d'action pour le climat que les gens accomplissent dans les régions du monde, qu'ils appellent chez eux. Les récits écrits et visuels montrent parfois des divergences ou des lacunes dans leurs comptes. Les aspects visuels supplémentaires fournissent les photographies. Que fournissent les photographies peuvent souvent, dans ce cas, transmettre souvent des réalités, les perceptions et les expériences des gens lorsque les données écrites ne peuvent pas transmettre. C'est donc ce qu'avait à dire à propos de l'art écologique, là, Alejandra Ramos-Galvez. Et maintenant, je vous parle d'un autre article. Ça s'appelle « Malgré la crise climatique, un meilleur demain impossible ». C'est écrit par Étienne Leblanc le 22 avril dans la presse. Et ça donne la parole, entre autres, à François Delorme, qui est professeur d'économie ici à l'Université de Sherbrooke, qui est membre du GEC, que j'aimerais ça entendre à ce micro si possible, et également de Valérie Champagne-Saint-Arnaud, qui est professeure au département de l'Université Laval et qui est experte en communication environnementale. Donc, elle dit qu'on peut se projeter dans le monde de demain et il faudrait cultiver une vision de demain qui donne envie d'en prendre soin. Il faut le faire, bien entendu, de façon lucide et sans porter de lunettes roses. Je trouve ça important de dire que un demain climatique meilleur est possible. Fait que cet article-là est intéressant de Étienne Leblanc. Je voudrais aussi mentionner que cette semaine, il y avait eu une rencontre à Sercovie de Québec solidaire à propos du logement. J'ai noté quelques idées phares, là. Il faudrait quadrupler le logement qui est hors du marché ou qui est socialisé. Et moi, j'ai ajouté qu'il faudrait que ce soit écologique et efficace. Et puis là, j'ai une suggestion qui est pas ordinaire, mais qui est importante. Vous savez que le traitement des eaux usées, ça génère beaucoup de gaz à effet de serre. Mais il y a moyen d'éviter ça, mais c'est une grosse révolution, tu sais, dont on ne parle pas souvent. Ce serait les toilettes à compost. Alors, il y en a des très modernes, très technologiques et bien faites qui font du compost. Et puis, ça évite de polluer les eaux. Fait que je pense que c'est un sujet qu'il faut regarder froidement, lucidement, avec des lunettes qui ne sont pas nécessairement roses, mais des bonnes lunettes. Et puis, on disait aussi que les bons logements pour les bonnes personnes... il faut en construire un peu, pendant au moins 15 ans, là, surtout pour les gens qui mettent 40 % de leurs revenus dans le logement. Et puis, une statistique que M. GND disait, 33 % des logements sont propriété de 0,5 % des propriétaires. Puis, une autre statistique surprenante, c'est que lorsque les propriétaires augmentent de 100 $ un logement, ça leur donne 150 000 $ 15 000 $ de possibilité d'emprunt. Alors, tu sais, ça peut expliquer peut-être la frénésie actuelle là, de vendre des logements, l'évasion, la rénoviction et tout ça, là. Fait que c'est ça qui est ça pour le logement. J'ai vu une pétition dans Internet qui s'appelle « Debout l'humanité ». On dit pourquoi cette pétition est importante. C'est que c'est pour dire non au génocide, aux guerres. C'est un cri de colère et de dénonciation qui veut témoigner de notre solidarité en tant qu'être humain envers nos sœurs et nos frères habitants de la Terre, en particulier les plus jeunes victimes d'injustice, de violence et des horreurs actuelles. Ça s'appelle « Debout l'humanité », une pétition que je vous encourage à regarder. Et puis, avant de faire cette émission sur l'énergie, j'avais l'intention d'en faire une sur la neuropédagogie, fait que j'ai changé d'idée en chemin, mais... C'est renouvelable, là, la semaine prochaine peut-être. Mais dans la neuropédagogie, il est question, entre autres, d'intelligence multiple, de sortes d'intelligence. Et ça peut très bien se relier à la question de l'énergie parce qu'on peut parler d'intelligence relationnelle, d'intelligence intra-relationnelle, intra-psychique, là, tu sais, l'intelligence personnelle ou l'intelligence émotionnelle, ou l'intelligence spatiale, ou l'intelligence mathématique, ou l'intelligence littéraire. Alors, on peut voir des problèmes selon les sortes d'intelligence. Et évidemment, je reçois des bulletins de nouvelles dont je vous fais part souvent hebdomadairement en vous encourageant vous-même à vous abonner. Par exemple, Slow Food. Vous pouvez vous abonner aux nouvelles de Slow Food et c'est gratuit. Fait que là, j'ai reçu cette semaine un bulletin qui dit que le recours à la faim comme arme est considéré comme un crime de guerre et qu'il y a un mouvement populaire pour l'alimentation, 4 initiatives communautaires qui transforment les systèmes alimentaires. Et Slow Food célèbre la réouverture du marché de la terre de Yaco. Je ne sais pas c'est où, mais je pense que c'est en Italie. Fait que c'est vraiment intéressant parce que c'est international. Slow Food, c'est malheureux que le nom soit anglais, mais c'est pratique aux États-Unis. Puis nous autres, on comprend que ça veut dire la lenteur, la gastronomie, les ateliers du goût. Ça, c'est le fun qu'ils fassent ça. Et puis, promouvoir la gastronomie locale. Bon, ça, c'est Slow Food qui fait ça. Et puis, j'ai également reçu le Climatoscope. Ça, c'est une revue de l'Université de Sherbrooke sur le climat. Et c'est gratuit. Vous pouvez vous abonner aussi. Je vous encourage à le faire. Puis il y a 3 articles qui m'ont surpris. Par exemple, « Et si on cultivait notre auto-empathie pour nous adapter? » Bon, c'est intéressant. Il y a question d'empathie émotionnelle, mais aussi d'empathie cognitive. Il y a donc des concepts intéressants à regarder. Et puis, il y a un article de Maya Morel. C'est elle-même qui est professeure ici à l'université. qui m'a parlé d'art écologique et elle écrit un article sur l'art écologique cette fois-ci. Également, il y a un article qui s'appelle, en provenance de Global Development de l'Université des Nations Unies. C'est pourquoi la résilience socio-écologique est bonne à la fois pour la biodiversité et le bien-être humain. Alors, c'est quelque chose qui est intéressant à lire. Je vous suggère, vous aussi, de vous abonner à Bulletin de nouvelles de l'Université des Nations Unies. On y dit que la perte de biodiversité menace la santé humaine et la prospérité. Ce blog montre pourquoi nous avons besoin de voir les humains et la nature comme faisant partie du même système. Et à la fin, on dit que bien que cela puisse sembler une liste de souhaits idéalistes, il est nécessaire que chacun soit impliqué pour atteindre l'objectif de vivre en harmonie avec la nature. De nombreux exemples à travers le monde montrent qu'une telle approche fonctionne. Et ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de la volonté politique à tous les niveaux de mise en œuvre et de rendre la possibilité possible de faire de la possibilité réaliste. Lorsque j'ai parlé tout à l'heure du podcast d'Étienne Blanc, d'Étienne Leblanc, à propos de François Delorme, par exemple, je sais que M. Delorme dit qu'en économique, la seule chose qu'on ne peut pas changer, c'est la non-procrastination sur l'urgence climatique. Autrement dit, la science économique ne peut pas oublier qu'il est urgent de décarboner. Et puis, M. Delorme, dans son entrevue avec Leblanc, disait que la démocratie ne fonctionne pas. On peut discuter de ça, mais c'est son opinion. Puis aussi que la politique est souvent irresponsable. Et lui, pour compenser ça, il propose une agence climatique. Il y en a une internationale, mais il devrait en avoir des nationales. Et puis l'agence climatique, il s'inspire de deux, une en Nouvelle-Zélande, une au Mexique. Fait que moi, j'en ai trouvé, là. Puis eux autres, ça s'appelle des commissions... Ils appellent ça différent. Des commissions sur le climat. Ça fait que la commission des changements climatiques, c'est ça le nom exact, elle conseille le gouvernement sur ce qu'il faut faire. Elle propose une politique énergétique. Donc, c'est inspirant. Vous pouvez aller voir ça dans Internet. C'est « Législation sur le climat à Aotearoa ». C'est Aotearoa en Nouvelle-Zélande. Et puis, il y a aussi la Grande-Bretagne qui a un programme semblable. Et M. Delorme parlait dans son entrevue qu'il s'inspire aussi d'une base de données qui s'appelle « Changement climatique et inégalité mondiale des émissions de carbone ». J'ai souligné ça ici. À l'échelle mondiale, les 10 % des principaux émetteurs mondiaux, qui sont 771 millions d'individus, émettent environ 31 tonnes de CO2 par personne par an et sont responsables d'environ 48 % des émissions mondiales de CO2. Les 50 % les plus pauvres sont responsables de près de 12 % des émissions mondiales en 2019, ce qui est à peu près 3,8 milliards d'individus. Et les 1 % des plus riches au monde contribuent à 17 % de CO2 par an. Ils émettent en moyenne 110 tonnes. Alors, combien de tonnes on devrait émettre par individu? Ça se discute. Je pense que Greta Thunberg pense à une tonne ou deux au maximum. C'est difficile. C'est difficile. Il faut faire la souveraineté alimentaire absolument pour éviter de faire venir des aliments de 1500 km d'ici. Alors, c'est déjà la fin de l'émission. Je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir été à l'écoute de À nous le futur. Mon nom est Claude Saint-Jean. Nous avons eu la chance d'avoir M. Bernard Saunier, ingénieur et co-auteur du livre L'éolien au cœur de l'incontournable révolution énergétique et de l'article Mettre fin au monopole de l'Hydro-Québec. C'est ça? Attendez un petit peu. C'est À qui profiterait la fin du monopole d'Hydro-Québec? Un article dans Le Devoir le 24 avril. Et la communication a été coupée après 25 minutes, mais quand même, on a pu profiter des lumières de M. Saunier. Merci beaucoup à lui. Merci à vous d'être à l'écoute et portez-vous bien, soyez en santé, heureux et heureuses.